Merci beaucoup Corinne Audouin. On vous retrouve pour le prochain Flash à 16h. Voici Barbatruc, un rendez-vous avec l'enfance.
J'adore chanter parce que ça me soulage, des fois ça me console, ou bah pour le plaisir aussi.
Mais aussi en chantant, moi je trouve que je pense à rien, à part ce que je fais, ma voix, pas qu'est-ce que j'ai à faire, c'est quoi les devoirs pour demain. C'est...
Quand on chante, s'il y a de l'émotion qui se fait sortir, les gens ils peuvent pleurer. Et ça, c'est très agréable de voir les gens pleurer.
Et je trouve qu'on peut dire plein de choses. On peut chanter sa colère, sa tristesse, ou quand on est heureux. Et c'est pareil pour la danse. Enfin, je trouve que en fait, la danse et le chant, leur point commun, c'est qu'on explique quelque chose dans deux façons différentes.
Et ça me détend.
Bah moi, déjà, si on était dans un monde où on ne pourrait pas chanter, bah... Enfin, je sais pas ce que je ferai de ma vie, du coup. Voilà, ce sera la panique générale.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soulager, consoler, laisser surgir les émotions, ils ont déjà tout dit, mais il reste tant à comprendre. Notre sujet cette semaine est à la fois tout simple et immense. Les enfants et le chant. Fredonner des berceuses aux tout petits est un réflexe répandu. Pourquoi arrête-t-on souvent quand les enfants grandissent? Comment laisser de la place au chant dans leur vie, dans notre vie avec eux? Pas obligé de monter une chorale en famille non plus, hein, mais pourquoi se censurer, par exemple, quand on est convaincu de chanter faux? À l'heure où la crise sanitaire complique parfois les choses, penchons-nous sur ce que chanter fait aux enfants, petits et grands, sur la façon dont ça les aide à grandir, sur ce que ça déplace en eux. Gageons qu'il ne sera pas seulement question de posture, de souffle et de voix. J'ai invité une chanteuse et une chef d'orchestre, deux musiciennes généreuses et enthousiastes qui s'intéressent de très près à l'enfance. C'est parti, quand le chant fait vibrer les enfants.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Bonjour Camille.
Bonjour Dorothée.
Et bonjour Sarah Connet.
Bonjour.
Quelle joie, quel honneur de vous recevoir toutes les deux. Soyez les bienvenues. Camille, chanteuse, autrice, compositrice, interprète, bien connue des auditeurs et auditrices de France Inter qui ont suivi le fil de votre carrière. 5 albums et une manière bien à vous de vous réinventer sans cesse. Vous vous êtes aussi frottée à l'image. Vous avez réalisé l'an dernier un documentaire « Comme un poisson dans l'air » qui est disponible en vidéo à la demande. C'est un film tourné pendant votre deuxième grossesse, dans lequel vous interrogez la façon dont le fœtus perçoit le chant, dont il perçoit votre voix et le lien chanté entre vous et le bébé. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Vous aviez l'oreille tendue à l'instant, Camille. Quels mots ont retenu votre attention dans ces paroles d'enfant ?
Ouais, j'ai tout aimé, tout ce qu'ils ont dit, je m'y retrouve énormément. Que ça soulage, je ressens complètement ça, comme un vase qui déborde, quoi. Ça soulage de chanter, ça permet de pas arrêter de penser.
Ça
j'ai trouvé ça très très juste et j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé avant qu'elle me dise ça. C'est vrai qu'on pense, on est là, quoi. Et puis un monde sans chant aussi, ça m'a touchée.
Soulager, consoler, il est vaste le pouvoir du chant. Sarah Connet, vous êtes chef d'orchestre, directrice déléguée de la Philharmonie de Paris depuis ce mois de janvier. Vous dirigez aussi la maîtrise populaire de l'Opéra Comique à Paris qui réunit 120 jeunes entre 8 et 25 ans. Ils sont formés au chant lyrique, au théâtre, aux claquettes. Ce sont des enfants et des ados qui viennent de tous les milieux. Car oui, de la mixité sociale dans la musique classique, c'est possible. Est-ce que vous faites de la politique, Sarah Connet ?
Je crois que la réponse est oui. Oui, je fais de la politique, mais je fais de la politique parce que finalement, chanter, c'est un besoin vital. Et que c'est un besoin animal. Et que dans des moments où tout se replie sur le soi-même, ça fait du bien de revenir à l'animal.
Donc au chant.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a de politique dans cette mission ?
Bah, le fait de dire que tout le monde a le droit de chanter, je crois, tout simplement.
Ah, ça fait du bien.
Ça commence pas mal, non ? Et les enfants qu'on vient d'entendre, justement, sont des élèves de la maîtrise populaire. On écoutera tout à l'heure le reportage de Juliette Proutot. Cette émission, en partenariat avec Bayard Jeunesse, a été préparée par Margot Page et Mao de Butler. Réalisation Anne-Cécile Perrin avec Mathias Alléon à la technique. C'est Barbatruc jusqu'à 16h.
Barbatruc sur France Inter, Dorothée Barbare.
My God, c'était Adèle sur France Inter. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. Barbatruc vibre avec Camille et avec Sarah Conné cette semaine. On s'interroge sur ce que le chant apporte aux enfants. Difficile de ne pas commencer par le coronavirus. Sarah Conné, directrice et fondatrice de la maîtrise populaire de l'Opéra Comique. À quel point la crise sanitaire complique-t-elle le chant choral? Est-ce qu'on chante masqué à la maîtrise?
Bien sûr qu'on chante masqué, on porte le masque à la maîtrise et on a un protocole sanitaire comme dans toutes les maisons. Mais vous savez quoi? Je disais tout à l'heure que le chant faisait partie de la vie. Mmh. Et les enfants nous l'apprennent, ils sont plus faciles que nous finalement les enfants. C'est pas qu'ils acceptent plus, c'est qu'ils continuent à être dans l'essentiel. Quoi.
Ils font avec.
Ils font avec parce qu'ils ont envie d'être ensemble. Et moi, ils m'apprennent beaucoup, hein. Ils supportent beaucoup mieux les masques que nous. Et c'est vrai qu'on chante avec masque, on chante avec masque en cours, on se démasque au moment des concerts. Et il nous est même arrivé de garder le masque au moment des concerts, parce que finalement, le plus important, c'était les concerts.
Ah, quelque chose, malheureusement, bon, est-ce qu'on travaille mieux le souffle avec un masque?
Non, c'est sûr que non. L'être humain, c'est un animal qui a besoin d'imiter son prochain. Et on voit pas ce qu'il y a derrière le masque de la professeure.
Camille, ça vous fend le cœur, j'imagine, un masque pour chanter.
Ah, ça me fond le cœur. Je suis heureuse d'entendre que ce que vous dites, qu'il y a une forme de résilience et de joie qui demeure. Mais non, mais moi, ça m'est extrêmement mal à l'aise. Et moi, j'en serais pas capable. Je l'ai fait une fois. Je me suis levée avec mes choristes dans un TGV et j'ai chanté masquée. Mais j'y suis arrivée à 3 minutes. Je l'ai pris comme quelque chose d'expérimental, une expérience à vivre, parce que en ce moment, voilà. Après, fondamentalement, c'est un cauchemar. Voilà. Pour moi, chanteuse, c'est un cauchemar.
C'est se lever dans un TGV et pousser la chansonnette, c'est ce qu'on appelle un concert surgissement, non?
À
la
maîtrise populaire. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un concert.
Qu'est-ce que c'est qu'un concert surgissement?
C'est quand, quelques secondes avant, on n'était pas là.
C'est un happening, alors.
C'est ça, soudain, on est là, on chante, on danse, et c'est la maîtrise populaire.
Alors, cette maîtrise populaire, vous l'avez créée il y a 6 ans à l'Opéra Comique de Paris. Elle a l'immense mérite de conduire vers la musique des enfants qui, sans doute, n'en auraient pas eu l'idée. Ils suivent ensuite une scolarité à horaire aménagé, un peu comme du sport-études, mais avec du chant. Comment recrutez-vous ces enfants, Sarah Connet?
Alors, on a deux voies de recrutement à la maîtrise. On a une voie traditionnelle, comme dans toutes les maîtrises, c'est-à-dire les enfants viennent nous voir. Donc, c'est des enfants qui ont entendu parler de nous, ceux-là. Ils auditionnent. Et puis, pour tous les autres, pour la moitié de l'effectif d'une classe, on va les trouver. On les détecte un peu partout dans le Grand Paris. On pose nos valises dans une ville de banlieue par an. Et là, on écoute tous les CM2 d'une ville. Ça peut aller jusqu'à 500 jeunes. Et on détecte les petits talents, les petites voix qui ignoraient encore la veille qu'ils avaient un petit talent ou une petite voix.
Et comment vous les écoutez? Parce que c'est pas des enfants qui ont forcément une pratique musicale?
Pas du tout, en fait. On va dans l'école.
D'accord.
Et là, on fait un atelier avec la maîtrise, on leur apprend à chanter. D'accord. Souvent, c'est un canon, ça permet de créer de la polyphonie très vite.
Ouais. Et vous leur apprenez qu'ils savent chanter quand c'est le cas.
Et bah là, ils se disent, oh là là, mais ça sonne plus que ce que j'aurais pensé. Puis ça leur donne l'envie.
Est-ce qu'il faut parfois convaincre les parents d'inscrire leur enfant quand vous avez repéré un talent? D'inscrire l'enfant à l'Opéra Comique.
Ah bah oui, imaginez, on débarque dans l'école, puis le lendemain, on débarque dans leur vie, dans la famille, en leur disant, votre enfant, en 6e, il va prendre le métro, il va prendre le RER, il va prendre le train.
Et chanter tous les jours.
Pour chanter et danser. Mmh. Et oui, monsieur, il est possible qu'il arrête le foot, votre fils.
Qu'est-ce que vous dites pour les convaincre de l'intérêt du chant chez leur enfant?
L'intérêt de l'expérience collective aussi, parce que c'est dans le collectif qu'ils vont chanter, ils vont rejoindre une aventure pour plusieurs années.
Le foot est une forme de chorale.
Tout à fait. C'est aussi une façon de chanter ensemble.
Vous parlez avant tout du collectif, et pas de la pratique du chant, de ce que ça apporte au corps, à l'esprit.
Mais non, mais vous avez commencé comme ça, vous savez, par la politique. J'ai l'impression quand même que le travail, il est vocal, essentiellement vocal, mais il est surtout citoyen. Et on apprend à fonctionner les uns avec les autres, à raisonner ensemble. Et c'est vrai que ça fait partie de nos missions, c'est sûr.
Et il y en a parfois que vous n'arrivez pas à convaincre?
Ah oui, ça arrive malheureusement tous les ans. Alors la première année, je l'ai vécu comme un échec personnel. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut rien imposer à personne. Il faut quand même avoir ce petit pic de folie pour se dire, mon enfant de 10 ans, de 11 ans, je le laisse s'envoler vers un territoire que je ne connais pas.
Et l'enfant a connaissance de cela, même si ses parents ne...
Oui, les enfants, on leur présente le projet, ils rencontrent le projet. Et de toute façon, ils viennent pas contre leur gré.
Allez, poussons la porte de cette maîtrise populaire, si vous le voulez bien. Notre reporter Juliette Proutot a assisté à un cours de chant avec des élèves de 6e, un cours encadré par Clara Brenier, chef de chœur.
Donc en ce moment, avec les 6e, on travaille une pièce, ça s'appelle les Pontiki. Et c'est en collaboration avec l'abbaye de Royaumont, avec l'académie de Villecrose. Et donc c'est tout un projet qui part d'un livre en fait, et qui parle de souris, donc les pontiki, qui se nourrissent de musique. Et donc il y a toute une histoire autour de ça avec plein de personnages. Et la musique, c'est que des tubes un peu de la période baroque en fait. Donc c'est que de la musique ancienne. Et la chance qu'on a, c'est que du coup, on est accompagné par le consort, qui est un ensemble professionnel de musique baroque, qui joue sur instruments anciens. Et en fait, ça, c'est une approche de cette musique-là qu'on chante pas forcément à la maîtrise ou enfin occasionnellement. Et ils adorent, quoi. Ils adorent.
Et je voudrais la scène avant Green Sleeve. C'est quelle scène, ça? De Petit Dragon, non? Oui, c'est ça. T'es prête, Théonie?
Chut. Je vais demander à toute la troupe de venir nous rejoindre chanter. You ready? Green sleeves!
chair de poule, franchement. Est-ce que vous savez, Sarah Coney, pourquoi ça fait un tel effet d'entendre chanter un chœur?
Parce que je crois que ça nous parle, ça nous fait vibrer, quoi. C'est quelque chose qu'on n'arrive justement pas à expliquer. C'est la chair, c'est le corps.
Camille, pourquoi est-ce aussi émouvant, les voix qui s'entremêlent entre elles?
C'est vrai qu'on s'identifie immédiatement. Alors, c'est le corps, c'est peut-être les neurones en miroir, comme les neurones miroir, je sais plus comment. Tout de suite, on a l'impression qu'on vibre comme un diapason qui fait vibrer le diapason d'à côté qui vibrait pas, quoi. On a l'impression de vibrer même si on chante pas quand on entend plein de gens chanter.
En écoutant, on est l'une des deux branches.
Ouais, j'ai l'impression que, on vibre en résonance, quoi.
Puis il y a quelque chose aussi de la mise à nu.
Oui.
C'est on accepte de faire avec en se regardant tel qu'on est, quoi.
Alors, puisqu'elle avait des enfants qui chantent à portée de micro, évidemment, Juliette Pruteau leur a demandé de parler de la place du chant dans leur vie et de ce que représente pour eux cette maîtrise populaire.
Quand tu prends des cours de chant dans ton école ou des trucs comme ça, c'est un monde où tu découvres une partie de toi que tu n'as jamais découvert. Genre les cordes vocales, moi jamais je m'y suis intéressée, alors que là c'est vraiment la partie la plus importante limite.
Quand on joue un instrument, en fait on est en train de chanter avec, et quand on chante avec notre voix, on produit de la musique et c'est un peu magique.
Et du coup, effectivement, c'est aussi très agréable d'aller dans la cour de récré et tu chantes, t'inventes des voix avec tes copains, tu danses, tu crées des... Enfin, c'est trop bien, voilà. Et puis, tu partages la même passion que tes copains.
Et puis, quand t'es sur la scène, c'est comme si tu t'envolais, tu fais tout ce que t'as appris et tu te libères.
Moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial que quelqu'un qui adore chanter... Vraiment, qui se trouve au milieu de personnes qui partagent la même passion que toi, sans, quand tu chantes ou tu danses, te juger ou dire « ouais, elle est bizarre, elle ».
Dans mon ancienne école, mes amis, quand je chantais, ils disaient « non mais arrête de chanter, c'est pénible », alors que là, au moins, si je chante, tout le monde chante aussi et je me sens dans mon élément.
Mon père, il me dit « oh, tu sens bien, Idriss ». Après, il a essayé de te trouver un conservatoire, il a pas trouvé. Après, j'ai grandi, j'étais en CM2. La maîtresse populaire de parcours qui est venue dans mon école, j'ai pas raté cette chance. Je suis allée. J'ai réussi le premier tour, j'ai réussi le deuxième tour. Et voilà, là, je suis ici.
On a connu cette école grâce à des copains. Mm-hmm. Et ma mère me disait toujours, vas-y, tente ta chance et tout. Moi, j'ai dit, non, je veux pas. Et ça a été ça pendant au moins un an et demi. Et au bout d'un an et demi, j'ai dit oui parce que elle m'énervait, quoi. Et du coup, elle m'inscrit et tout. Et j'arrive à l'audition et c'était un énorme stress parce que déjà, c'était a cappella. Et moi, je sors de l'audition et j'étais entre... Je pleure parce que c'était compliqué et stressant. Et je suis heureuse parce que je sais que j'ai quand même bien fait le truc, quoi. Et quand t'apprends que t'as été pris, c'est pas le meilleur moment de ta vie, mais c'est l'un des moments les plus... beau, parce que en fait c'est comme si on te disait, toi tu vas chanter très bien pendant des années et tu vas danser très bien pendant des années et on te prend en fait. Et du coup c'est agréable de se dire cool quoi,
j'ai
réussi quoi. Et au moins tu réussis au moins une chose dans ta vie. Voilà.
Fort et paisible, les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Alors si vous voulez entendre ces enfants la chanter et d'autres élèves de la maîtrise populaire, rendez-vous en avril prochain pour mon premier festival d'opéra. C'était l'Opéra Comique de Paris. Il vient de se dire beaucoup de très belles choses, Sarah Coney, et notamment cette phrase, c'est un peu magique.
C'est vrai, non ? C'est un peu magique. Moi, je les trouve un peu magiques, de toute façon, tous ceux-là.
Vous les reconnaissez tous et toutes, là, quand
vous j'ai bien l'impression que je les ai reconnus, ouais.
Tu réussis au moins une chose dans ta
c'est
vie, disait cet enfant. C'est dingue, c'est hyper valorisant.
Ouais, c'est fou, parce qu'en plus, c'est pas simple. Hein. Chanter, ça veut dire travailler, quand même.
Vous êtes très exigeante avec eux?
Ouais, je suis très exigeante avec eux. Je dirais même que ce qu'on apprend à la maîtrise, c'est à travailler sur soi-même et à travailler longtemps et à être endurant et à avoir envie d'y retourner. C'est pour ça que c'est assez incroyable de se dire qu'en fait, c'est quand même le plus beau jour de leur vie.
Allez-y, hein, sur ce plan-là. Mais au final, oui. Tu découvres une partie de toi que tu ne connaissais pas, dit aussi l'une de ses enfants, Camille. Ça vous fait le même effet, à vous, de chanter ?
Ah oui, oui, oui. Et ça ne s'arrête jamais. C'est un travail d'exploration.
Ça marche aussi chez les adultes, vous voulez
ça
dire ?
Ça marche toute la vie, oui. Oui, 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 oui. Et la voix bouge. La voix ne ment pas. Donc c'est aussi un travail de découverte de soi-même, mais aussi d'acceptation de soi-même et des transformations qu'on n'a pas forcément décidées.
Et ça marche aussi, dites-moi si je me trompe, quand on n'a pas le niveau forcément pour chanter à la maîtrise populaire de l'opéra comique. Quel conseil vous avez à donner aux parents qui nous écoutent l'une et l'autre pour laisser champ libre au chant dans la vie des enfants, Camille ?
Ah, c'est simple, hein. Je pense que la première chose, c'est de se laisser chant libre à soi-même en tant qu'adulte. Quand on voit son papa ou sa maman chanter, même si elle chante faux, et puis se laisser chanter, il y a beaucoup de couples où les gens se disent bah, « arrête de chanter, tu chantes faux, chérie !» C'est terrible. Voilà, donc ça commence par là, hein. Juste se laisser chanter, se laisser s'exprimer si c'est pas le chant, son mode d'expression, et puis laisser les enfants chanter, alors chanter des chansons éventuellement, les laisser, je sais pas moi, tout simplement s'exprimer, inventer des petites pièces de théâtre, des spectacles. Les enfants font ça très spontanément, hein.
Oui, pour moi, ça a quelque chose de l'ordre du jeu. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime raconter à la maîtrise et ce que j'aime découvrir encore et encore avec eux, c'est que quand je rencontre ces enfants qui ont 10 ans, et ben ils jouent dans la cour, ils jouent. C'est-à-dire que c'est encore des enfants qui se mettent en scène dans leur tête. Et en fait, ce qu'il faut cultiver, c'est cette envie-là de jouer. Et donc, de pas se prendre au sérieux. Et donc, de se laisser chanter, de se laisser danser.
Et vous avez la même indulgence avec les parents qui chantent faux, Sarah Connet, que Camille ?
Bah, en fait, je suis pas sûre que toute oreille soit définitivement fausse, moi. Il y a beaucoup de gens qui chantent faux parce qu'ils se sont auto brimés. Ils se sont pas laissés chanter, justement.
C'est la confiance qui fait que l'on chante juste ou pas ?
Ah bah, en
la confiance
partie,
en soi, j'entends.
Oui, oui. Mmh. Je pense qu'il y a un rapport entre la confiance en soi et le chant.
Une grande question, ouais. Pourquoi chante-t-on faux ?
Donc, ce serait aussi une manière d'apprendre aux enfants la confiance en soi, l'estime de soi, que de chanter le plus souvent possible.
Et de danser. Pour moi, les choses doivent fonctionner ensemble. Le corps, c'est l'instrument qui rentre en résonance avec les cordes vocales.
Alors, puisque vous parlez de jeu, moi je pense évidemment au canon. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le canon, la chanson en canon avec des enfants, ou alors vous, lorsque vous étiez enfant. Mais souvent, les enfants ont tendance à se boucher les oreilles parce que sinon, ils n'y arrivent pas. Alors là, ça pose une question. Pour qui est-ce qu'on chante quand on chante à plusieurs, si on n'entend pas les autres? Est-ce que ça a encore un intérêt? Ça reconnaît.
Ah bah, je ne sais pas, moi, mes plus forts souvenirs d'enfance, c'est justement les canons dans la voiture avec ma maman, quoi, et mes frères. Donc non, on se bouchait pas les oreilles, mais c'est un apprentissage vers l'autre aussi, d'accepter de ne pas se boucher les oreilles et de comprendre que ça vibre et que ça fonctionne quand même.
Ça, c'est une étape de se boucher les oreilles.
C'est
une étape. Souvent, oui. les enfants et les grands, ils commencent par se boucher les oreilles pour bien apprendre leur partie, parce que les autres les déconcentrent et ça les. Et puis au bout d'un moment, tu ne bouges plus les oreilles.
Donc il faut persister quand on se bouche les
oreilles. Il faut persister dans le canon. Oui.
Le coq est mort. On persiste. Et Camille, quel souvenir d'enfance avez-vous autour du chant ?
C'est drôle parce que ça va dans le corps. Je me souviens de courir l'été enivré de chanter La Reine de la Nuit. Voilà, dans les suraigus. Voilà. Et je chantais ça en courant et sous le ciel d'été. Et puis bon, voilà, bah c'est devait être, comme disait la petite fille, l'un des plus beaux jours de ma vie. Et je l'ai fait plein de fois, mais voilà, quoi. C'est enivrant, c'est voilà.
Quel lien est-ce que vous faites entre la vibration du chant et l'émotion ? Est-ce que vous diriez que le chant aide les enfants à comprendre leurs propres émotions ?
Je trouve c'est plutôt ressentir dans le corps et c'est laisser déborder, laisser sortir d'une manière qui, je trouve, est non violente. Alors après, on peut dire oui, tu me casses la tête, etc. Bon, dès qu'il y a un extérieur déjà, ça fait du bien.
Surtout pour la reine de la nuit.
Voilà, surtout pour la reine de la nuit, ou même pour crier tout simplement. Hein, la voix, de toute façon, c'est un exutoire que je trouve non violent, moi. Voilà, à partir du moment où, évidemment, il n'est pas contre l'autre, qu'il n'y a pas des mots violents, mais en tout cas, quand c'est de soi à soi comme ça, ou évidemment en chorale.
Voilà, une illustration sonore peut-être pour ceux et celles qui ignorent ce qu'est la reine de la nuit, Camille.
Ah là maintenant là.
J'ai laissé un...
Voilà, c'est tout.
Ah voilà. Et là tout de suite on voit bien ce que
c'est. Et là on est en été, en extérieur et on court, quoi.
Apprivoiser ses émotions, c'est de ça qu'il s'agit, Sarah Connet.
C'est de les accueillir, je dirais. Oui. Les laisser être sans les commenter, dans un premier temps. Le commentaire, il est soit plus tard, même peut-être parfois plusieurs années plus tard. Parfois, le chant, il permet aussi de ne pas commenter. Et parfois, ça nous laisse tranquille quand on est un enfant.
Accueillir sans commenter.
Oui.
Et le chant peut aussi faire le lien entre une maman et son bébé. On va plonger dans votre documentaire dans un instant, Camille, comme un poisson dans l'air. Voici d'abord Au clou et Pomme sur France Inter. Galore.
C'est ce que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes s'embrouillent, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous.
Du chant pour les enfants, c'est le sujet de Barbatruc cette semaine avec la chef d'orchestre et chef de chœur Sarah Connet, directrice de la maîtrise populaire de l'Opéra Comique à Paris, et avec la chanteuse Camille. Comme un poisson dans l'air, c'est le titre de votre documentaire, celui que vous avez tourné enceinte, Camille, et qui est disponible en vidéo à la demande. Il est sorti l'an dernier, en pleine crise sanitaire. J'aime beaucoup la façon dont vous jouez avec le langage dans ce film, dont vous examinez les mots. Je suis enceinte, mais je n'ai rien d'une forteresse, dites-vous notamment. Autrement dit, vous n'êtes pas une enceinte au mur imprenable. Vous tentez des expériences de passe-muraille, vous chantez pour le bébé, avec lui. C'était l'ambition ?
C'est que d'attendre cet enfant, mes enfants, parce que cette réflexion elle a commencé avec ma première grossesse aussi, ça m'a fait m'interroger sur le chant, en fait, et sur cette place fondamentale que ça avait pour moi, et j'avais l'impression de recommencer tout à zéro, que ça recommençait toute la genèse du chant, parce que j'avais un petit être vivant qui était là à l'intérieur et qui entendait, je sais pas s'il écoutait, mais voilà, et c'est bouleversant.
Une enceinte, ça n'est pas une forteresse, mais c'est aussi ce qui sert à diffuser la musique, une enceinte.
Oui, par extension, mais je trouve vraiment, on n'a pas trouvé de mots en espagnol, embarazada, oui. C'est vraiment des mots, je suis la grossesse, il y a un truc avec ce mot que j'aime pas, enfin je dis je suis pleine d'eau, et puis voilà, j'attends la vie, j'attends un enfant.
Mais vous êtes une enceinte musicale.
C'est ça, on diffuse le son à l'extérieur, mais là, c'est très étonnant parce que ça le diffuse à l'intérieur. D'habitude, les autres vous entendent de l'extérieur, à travers l'air. Là, l'enfant vous entend à l'intérieur, à travers l'eau. C'est complètement unique comme expérience d'écoute et de chant. Voilà, donc voilà, je parle de ça.
Écoutons un extrait de ce film, Comme un poisson dans l'air.
Est-ce qu'un fœtus, il peut chanter ?
C'est bourré de flotte, hein. Donc, si tu veux, les cordes vocales, elles peuvent pas vibrer. Donc, il peut faire d'autres bruits. Il peut faire des bulles. Il peut avoir le hoquet. C'est des bruits, hein. Il peut bouger l'eau et ça fait un certain bruit, c'est sûr.
Il entend son cœur.
Il entend, bien sûr, via l'eau, comme les animaux aquatiques.
Est-ce que tu veux chanter un truc à mon fœtus?
Bien sûr, d'abord, j'ai chaud. Trush da yabundikta etrik de timba bushi ti la katakingi budi dalla katimbikichi tata drumbikiti ta trumbikita deliketa pumbikichi ti ta di gudumba ba bumbikiti ki ki katakapa bumbikiti ki ta pum pum tikiti pum pum ha ha ha.
Elle échange tout ce qu'il y a de plus banal avec votre médecin pendant votre grossesse. Qu'est-ce que c'est que cette chanson, Camille?
Là, c'est son improvisation du moment. Bah, j'adore parce que les enfants, en général, on se moque souvent des gens. On dit qu'on fait « Ah, vas-y, adieu !»« Ah, mania !» Et moi, je trouve ça génial parce qu'on est dans un autre langage et on se lâche complètement. C'est extraordinaire. Et alors, a fortiori, quand c'est un fœtus, c'est-à-dire un enfant dans le ventre, alors là, l'imaginaire est à son paroxysme. Quand les gens se lâchent, voilà ce que ça donne. C'est génial.
C'est un haut potentiel poétique, effectivement. Ah, oui. Est-ce que vous avez
grand maître de chant.
La réponse à cette question que vous vous êtes posé tout au long de ce film, qu'est-ce qu'il entend, le fœtus,
bah, c'est Camille? Ce que je dis dans le film, c'est qu'au bout d'un moment, je dis ben, je ne le saurai jamais. Mmh. Et c'est bien ça le mystère de la vie. Et son caractère, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, divin, sacré et merveilleux. Voilà. Mmh. On ne saura jamais ce que les enfants entendront, on ne s'en souvient plus.
Il y a une très belle séquence dans ce documentaire de chant et de danse collective avec d'autres femmes enceintes. Chacune a une façon très différente d'incarner cette chorégraphie. Est-ce que chacune a une histoire différente autour du lien chanté avec le bébé?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est d'être enceinte, même quand on se connaît peu, il y a un lien particulier qui se crée entre une ou deux ou plusieurs femmes enceintes. Et un accès assez privilégié, je trouve, au chant, parce que c'est un chant intérieur, d'une certaine manière. Et on est tellement relié à son corps dans ces moments-là et à ses émotions, si tout se passe bien, et à son enfant, si tout se passe bien, évidemment, que pour moi, l'accès au chant, il est facile.
Sarah Connet, je me tourne vers la chef de chœur. Est-ce que vous avez aussi chanté à votre bébé lorsque vous étiez enceinte?
Moi, j'ai chanté, oui, bien sûr, mais surtout, j'ai fait écouter des choses à mon bébé. Et surtout, il a écouté la maîtrise, mon bébé, de fait. Mais moi, je crois qu'on peut savoir un petit peu ce qu'ils ont entendu. J'ai l'impression qu'on perçoit ce qu'ils reconnaissent. En tout cas, j'ai l'impression que parfois, ils reconnaissent des choses qu'ils ont entendues. Et que quand on leur refait entendre quelque chose qu'ils ont beaucoup entendu, il y a quand même quelque chose...
Oui, moi, ça me le fait. J'ai des choses... Je sais que ma mère les a écoutées quand elle était enceinte. Et c'est ce qui me régénère le plus au monde.
Puis c'est un acquis gigantesque de la deuxième partie du XXe siècle, de se dire que l'enfant in utero, il est déjà en train de commencer un chemin, et qu'on doit l'accompagner déjà dans ce chemin.
Ouais. Bonjour la pression parentale, si ça commence avant.
C'est la relation, c'est ça qui est formidable.
Mais oui.
Il n'y a rien de parfait, mais c'est la relation commence très tôt. Ouais.
Tout de suite, la pression, tout de suite.
Tenez, parlons de pression. Sarah Connet, la promesse affichée de votre maîtrise populaire à l'Opéra Comique, c'est de grandir sur scène. C'est presque du Dalida. Hein. Moi, je veux grandir sur scène devant les projecteurs. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette idée, grandir sur scène?
En fait, c'est tout simplement vraiment grandir au plateau. C'est-à-dire que ces enfants, ils se retrouvent tout de suite embarqués dans des aventures de production, puisqu'ils sont programmés à l'Opéra Comique dès leur première semaine de présence à la maîtrise, et donc ils grandissent avec des expériences de plateau, avec des metteurs en scène et des chefs, et dans des expériences de vie artistique, c'est ça, grandir sur scène.
Donc c'est l'exigence de la représentation tout de suite.
C'est-à-dire prendre la pyramide dans l'autre sens, et se dire qu'on arrive au plateau avant les dizaines d'années d'expérience. Et que c'est sur la scène qu'on fait ses preuves.
Et qu'est-ce qui se joue entre les élèves? Quel lien, quelle énergie dans la troupe le chant va-t-il créer? Parce que finalement, c'est très intime de chanter ensemble.
Ouais, c'est très intime. Et je dirais qu'il se joue exactement la même chose que dans beaucoup de fratries. Sauf que c'est une très 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 grande fratrie. Donc il y a du merveilleux comme du difficile. Donc il y a des moments où on n'a pas envie d'avoir affaire aux énergies et aux émotions de l'autre. Et puis des moments où on trouve ça incroyable que l'autre ait justement les mêmes émotions que nous et qu'elles vibrent ensemble.
Le moment où on chante, on est dans l'émotion, mais on est aussi on met de côté ces émotions aussi. Et donc ces conflits, et c'est ça aussi qui crée la paix, je trouve. C'est-à-dire que
on
sublime ses émotions, on sublime ce qui se tricote, les relations qui se tricotent dans une famille, dans un grand groupe. On est dans un truc au-delà de ça. C'est ça qui soulage, je trouve, dans la musique.
C'est ce que disait cet enfant au tout début de l'émission sur cette idée de vider la tête, finalement, Sarah Connet.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un moment hors du temps, hors de tout problème, de toute situation. Voilà.
Et ça doit, j'imagine, renvoyer à des souvenirs très concrets au sein de la maîtrise populaire de l'opéra comique, peut-être des problèmes qui sont évacués ou oubliés le temps d'un spectacle, le temps d'une chanson.
Mais je dirais que ça arrive tout le temps, puisque avec ces enfants-là, on est dans la vie, donc on est autant dans le quotidien. Encore plus contraint que d'habitude, je dirais, depuis 2 ans. Et malgré tout, on en parlait en début d'émission, malgré tout, on chante. Et c'est le malgré tout qui est important. C'est pour ça que je vous disais qu'il est important de garder ces moments-là.
Bravo. Allez, on poursuit ces échanges dans un instant. J'ai un conseil de lecture pour les enfants entre 8 et 12 ans environ, bien sûr. C'est le magazine Image Dog du mois de février que je montre à mes invités. Il est déjà en kiosque avec tout un dossier sur le monde de Darwin et à la rubrique Labo Science, une expérience géniale et très simple. Fais ta météo avec une pomme de pin. Et oui, on peut prévoir le temps avec une pomme de pin et une ficelle. Tout est expliqué. Il suffit de suspendre sa pomme de pin à la fenêtre et de l'observer. Quand le temps est sec, la pomme de pin est ouverte, ses écailles sont toutes écartées. Mais quand la pluie approche, les écailles se resserrent les unes contre les autres et la pomme de pin se referme. C'est très pratique pour savoir quand il faut prendre son parapluie pour aller à l'école. Explication, le cône, c'est le vrai nom de la pomme de pin, abrite des graines ailées qui doivent rester sèches pour être emportées par le vent. Le bois des écailles est sensible à l'humidité, à l'eau contenue dans l'air. Les pommes de pin sont capables de se fermer pour protéger ces précieuses graines. Voilà, la météo pomme de pin, c'est un labo science à découvrir dans le nouveau numéro du magazine Image Doc. Vous écoutez Barbatruc et Camille est dans notre playlist, évidemment.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
Je ne mâche pas mes mots, extrait de Oui, avec un tréma, l'un des albums de Camille, qui est mon invitée cette semaine, aux côtés de Sarah Connet, directrice de la maîtrise populaire de l'opéra comique à Paris. Qu'est-ce qui prédispose un enfant à se tourner vers le chant, Sarah Connet ?
Qu'est-ce qui ne prédispose pas à un enfant? J'ai l'impression que les enfants sont tous prédisposés.
Camille. Ah bah oui, je pense que l'humain est une espèce chantante. Oui, oui, oui. Je sais que c'est assez consternant qu'on s'en éloigne autant. Heureusement qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chants dans la société, mais on devrait tous chanter quotidiennement, ouais, je pense, dans notre état naturel, normal, physiologique, épanoui.
C'est facile à dire pour vous deux qui chantez bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, mais en vrai, il y a des gens...
Mais les enfants, ils chantonnent. Mm-hmm. Très jeunes, ils chantonnent. Ils chantonnent pour se bercer, ils chantonnent pour ponctuer leur journée avant même de savoir articuler des mots. Il faut juste garder cet état frémissant-là, quoi.
C'est oui, ça puis, et puis un cœur populaire, il peut y avoir des gens qui chantent faux dedans. Hein. Je compare souvent ça à une cloche qui est légèrement un peu fêlée. Il y a plein d'instruments qui ont des harmoniques pas complètement justes et c'est ça qui fait que c'est beau. Donc celui qui chante faux n'est pas à exclure, au contraire. Parce que je pense que justement, ça va donner du grain, ça va donner quelque chose. Et puis, ça va donner quelque chose d'inclusif qui est absolument merveilleux. Moi, quand je vois des gens qui n'ont jamais osé chanter, quand j'ai réussi à les faire chanter, à les amener à ça, c'est magique. Voilà, magique.
Il n'y a rien de définitif, en fait.
Ça s'apprend, ça se rééduque. Ouais.
Hein. Sarah Connet, vous travaillez à la maîtrise populaire avec la méthode Dalcroze. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors la méthode Dalcroze, c'est une méthode suisse, d'un pédagogue suisse qui s'appelle Jacques Dalcroze. C'est une manière d'arriver à la musique avec comme vecteur de cette musique le corps. Donc finalement, on commence par danser le son, par danser le rythme, avant de le comprendre théoriquement.
Donc on incarne ce qu'on chante, on le porte
exactement
dans son corps.
On le transporte comme on le souhaite avec son corps avant de savoir l'écrire finalement.
Oh, je suis d'accord.
Tant mieux si vous l'êtes, Camille.
Merci Camille.
Je recommande sur le site de Radio France une vidéo où Guillaume Meurice, figurez-vous, explique ce qu'est la méthode Dalcroze avec un sens de la pédagogie exceptionnelle. Cette maîtrise populaire de l'opéra comique, elle a fait des prestations assez exceptionnelles, notamment l'entrée au Panthéon récente de Joséphine Baker. Vous avez chanté aussi, enfin les élèves, ils ont aussi chanté dans la cour d'honneur du Palais des Papes. On n'est pas très impressionné par les ors, quels qu'ils soient.
Quand on nous a pas appris à être impressionné, on n'est pas impressionné. C'est ce qui est merveilleux. Et c'est ça qui est incroyable quand on les emmène au Panthéon ou ailleurs. En fait, c'est vrai que le Panthéon, on est impressionné quand on sait pourquoi ça doit nous impressionner. Et puis, en fait, quand on sait pas, on peut trouver ça froid.
Mais tous sont impressionnés par le chant. Tous vibrent à l'unisson.
Je crois qu'ils sont tous impressionnés par les plus grands qui ont vibré avant eux et qui leur montrent comment vibrer. Et c'est ce que je trouve beau, c'est la manière dont ils regardent leurs aînés qui ont bien grandi maintenant.
Et la vibration est intérieure. Je repense à ce documentaire, Camille, comme un poisson dans l'air. Vous avez tourné une séquence dans une chambre sourde, une chambre sans écho qui est tapissée de pièges à son, comme vous le dites si joliment. Vous êtes seule avec le bébé, seule à son. Que retenez-vous de cette expérience?
J'ai fait cette expérience parce que je me suis dit, un bébé, je voulais entendre ce que peut-être le bébé entendait dans le ventre. Donc alors, soit tu te mets sous l'eau, ce que je fais à la fin du film, soit tu te mets dans une chambre sourde parce que souvent on parle de l'eau et que dans les océans c'est l'immensité, alors on s'imagine une réverb incroyable et le grand bleu et tout ça. Mais en fait quand t'es dans l'eau, il n'y a aucune réverb. Donc je me suis dit, je me mets dans cette chambre qui n'a aucun écho, pour me mettre à sa place et puis aussi être sûre que j'ai en mer complètement délirante, qu'ils n'entendent que ma voix et qu'on soit à son. Je suis arrivée à l'IRCAM.
Des années de psychanalyse.
Non mais c'était tellement drôle. Les gens étaient interloqués. Ils m'ont accueilli. Ok. Mais c'est très artificiel parce que ça n'existe pas dans la nature à part peut-être dans un champ de neige ou sous l'eau. Voilà. Mais il y a toujours une acoustique, un écho vraiment.
Et ce très beau documentaire, je le rappelle, est disponible en vidéo à la demande. On a envie de les entendre encore chanter, non? Les élèves de la maîtrise populaire. Tenez, ils sont passés par France Inter l'année dernière quand Sarah Connet était l'invitée d'Augustin Trapenard et ils ont interprété un chant finnois.
Soy kai sri kosa,
C'était comment, Camille?
Ah, c'est super beau. Moi, les chants, ils te transportent tout de suite dans l'âme, je veux dire une banalité, mais dans l'âme d'un peuple, dans un climat, dans des paysages, l'imaginaire à fond. Non, je demandais à Sarah si c'était un chant folklorique et ça l'est, donc ça veut dire que c'est un chant qu'on chantait dans les villages. Et je pense que c'est la fierté de l'humain aussi d'avoir le chant de son village, le chant de son quartier. Ce serait bien qu'on retrouve ça, quoi. Ce serait bien, ça ferait du bien à notre dignité, quoi.
À l'école, peut-être. Tenez, dernière question. Est-ce qu'il faut laisser plus de place au chant à l'école, à votre avis, Sarah Connet?
Pour moi, la musique devrait être une langue vivante. Donc, ça ouvre un vaste chantier. Mais oui, je pense que si on veut pas que le chant devienne un jour une langue rare, il faut l'apprendre.
Camille?
Pour moi, on pourrait tout enseigner en partant du chant. Même l'histoire en chanson. Je pense qu'on retiendrait vachement mieux les dates.
Ça aurait de l'allure.
Oh oui.
Allez, c'est le retour d'un rendez-vous incontournable à présent. L'as-tu lu, mon petit loup, avec Denis Chessou? Bonjour Denis.
Bonjour chère Dorothée, bonjour Camille et bonjour Sarah.
De retour à distance cette semaine et en studio de la semaine prochaine, vous continuez à surveiller pour nous l'actualité du livre pour enfants. Et vous vouliez nous parler de Mario Ramos, le musée de l'illustration jeunesse à Moulins dans l'Allier, met en lumière cet artiste immense.
Oui, parce que Mario Ramos, c'était en fait un copain qui était charmant, qui était drôle, qui était sensible, qui était abonné au doute, comme la plupart des créateurs. Et donc, il a une seule faute de mauvais goût, ça a été de disparaître. Il avait un petit peu plus de 50 ans, c'était il y a 9 ans. Et cet homme, en fait, est devenu, j'ai presque dire malgré lui, un classique.
C'est quoi un classique pour vous, Denis? Vous auriez une petite définition?
C'est quelqu'un qui va intéresser tous les enfants, indépendamment de leur origine, qui va s'adresser à ce qui est universel en eux, c'est-à-dire le besoin de justice, de vérité, l'amour de la vie, la différence. Et cette définition va comme un gant à l'œuvre de Mario Ramos.
Alors, de quoi est fait son monde, précisément?
Alors, il faut imaginer des cochons un peu partout, des loups, des singes, des monstres, des stéréotypes pour mieux les déconstruire. Et donc, Mario observe le monde contemporain, alors sans concession, mais avec surtout pas mal d'humour. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous les auteurs et illustrateurs. Alors, l'enfant est toujours au cœur du travail de Mario Ramos. Et dans ses livres, vous avez des personnages qui peuvent être très méchants, mais souvent très bêtes. Et les héros se débarrassent des méchants grâce à leur imagination. C'est le pouvoir des enfants qui parfois est un petit peu bridé par l'école.
Mario Ramos disait qu'il construisait ses livres comme des blagues. C'est la fin de la blague qui donne toute sa dimension à l'histoire et c'est comme ça qu'il construisait ses livres. Quels sont ses livres majeurs, Denis Chessou?
Alors, on peut commencer par « C'est moi le plus fort », qui est un des plus connus. Et là, c'est le loup que l'on porte en nous, c'est-à-dire qu'on arrive à maîtriser plus ou moins bien le désir de puissance qui revient constamment, et pas seulement chez les enfants en cours de récréation.
Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois.
La première phrase du livre est donc très importante, Dorothée, parce que dans les histoires de loups, en général, le loup est toujours prêt à dévorer tout ce qui passe. Là, le problème est éliminé pour parler d'un autre sujet, le besoin de reconnaissance.
Voilà, ça c'est pour « C'est moi le plus fort », l'immense bouquin de Mario Ramos. Son premier livre s'appelle « Le monde à l'envers ».
Alors tout le monde a déjà éprouvé donc le sentiment d'être mal dans un monde qui l'entoure. Et là, le petit Rémi va de temps en temps à l'école pour se distraire. Et c'est là qu'il apprend que la Terre est ronde. Et du coup, il imagine qu'il est du mauvais côté. Et s'en va chercher sa place dans le monde, l'endroit où il sera bien. Alors vous avez aussi Roméo et Juliette, qui est un livre sur la timidité.
Roméo est un éléphant qui rougit facilement et les autres l'appellent Tomate.
Alors sa rencontre avec Juliette, ça c'est la souris très importante, car c'est la première fois qu'on ne se moque pas de lui, et ça va changer sa vie. Alors bon, la fin est quand même moins tragique que chez Shakespeare, hein, je vous rassure.
Oui, la fin ça donne ceci, ils ne se quittaient plus, parce qu'ils étaient bien ensemble, tout simplement.
Et voilà, et n'est-ce pas nous qui souvent compliquons un tout petit peu les choses inutilement? Voilà, sujet à méditer.
Il faut signaler, Denis, qu'un de ses livres a été réédité récemment, Un monde de cochons chez Pastel.
Oui, c'est un monde de cochons. Donc, alors, c'est pas facile de trouver sa place hein, dans un monde de cochons. Non. Donc, c'est un petit roman en 7 chapitres pour dire aux enfants que d'abord la lecture est un vrai plaisir avec différents épisodes. Et le petit cochon qui sait déjà lire s'empresse de faire la lecture à son ami Petit Loup qui doit s'intégrer dans un monde de cochons. Donc là, on renverse la donne et c'est pas facile car...
Car il fait un peu peur. Il a l'air méchant.
Et oui, jusqu'à ce qu'il rencontre Fanfan, donc un petit cochon qui est différent. Et là, c'est le début d'une belle amitié entre un cochon et un loup, personnage qui permet donc aussi une référence constante au conte et à notre société. Alors vraiment, lisez Mario Ramos hein, chez Pastel avec vos enfants. Vous pouvez lire tous les titres, il y en a une trentaine. Et là, vous avez une grande humanité, un éclat de rire chez ce Belge génial. Puis moi, je me souviens ce qu'il me disait un jour dans un salon. Il me disait « Pensez à éteindre la télé et les écrans de temps en temps, sinon c'est eux ». Qui vous éteindront.
Le plus beau, le plus fort, le plus malin, c'est le titre de cette expo Mario Ramos au musée de l'illustration jeunesse de Moulins. C'est dans l'Allier. Un grand merci Denis Chessou et à la
merci
semaine prochaine.
Dorothée. Merci à tous.
Allez, nous approchons de la fin de cette émission. Il est temps de poser ma dernière question à mes invités Sarah Conné et Camille. Question rituelle de Barbatruc. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Sarah Conné.
L'odeur de mon enfance? Elle se partage entre l'odeur du jardin de mes grands-parents, quelque part en Haute-Savoie, et l'odeur des chevaux.
Et vous, Camille, quelle est l'odeur de votre enfance?
Alors, l'odeur de mes parents, leur parfum, l'odeur des lilas au printemps. Et il m'est revenu, quand vous m'avez posé cette question, une odeur qui est chimique, que d'habitude, j'aime pas trop les odeurs comme ça, mais c'est l'odeur d'un vernis pour bois, qui m'enchante parce que ça me remet à côté d'un petit cabanon sur la baie d'Arcachon, en fait. Un petit cabanon où il y avait mon arrière-grand-mère qui était assise devant et qui regardait la mer.
Quelles sont belles et variées les odeurs de la semaine. Un immense merci à vous deux. Sarah Conné, les auditions, les enfants entre 8 et 17 ans ont jusqu'au 28 janvier pour s'inscrire et tenter d'intégrer votre maîtrise populaire. Pour ceux et celles qui préfèrent écouter, la maîtrise populaire de l'Opéra Comique, elle propose des spectacles à voir en famille. On a mis, bien sûr, un lien à la page de l'émission pour consulter les dates. Je recommande aussi un podcast dans lequel on entend votre portrait, Sarah Conné, portrait littéraire, proposé par la Fondation Bettencourt, qui fait partie des mécènes de l'Opéra Comique. C'est Adrien Borne, écrivain, qui brosse votre portrait. Le podcast s'appelle « Des ailes au talent ». Les auditeurs et auditrices trouveront aussi sur notre site un lien vers votre film, Camille, qui est disponible en vidéo à la demande, comme un poisson dans l'air, récit d'une grossesse enchantée par le chant. Vous proposez aussi en ce moment des concerts participatifs. Ça s'appelle les Lala Live et toutes les dates sont sur notre site internet. Mille merci à vous deux. Bonne journée.
Merci.
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci à tous.
Et à bientôt sur France Inter.